66. La mort de Stenio fut le signal d'autres événements tragiques. Le cardinal mourut peu de temps après d'un mal si rapide et si violent qu'on l'attribua au poison. Magnus avait abandonné son ermitage. Il avait erré plusieurs jours dans les montagnes en proie à un affreux délire. Les montagnards, consternés, entendirent ses cris lamentables retentir dans l'horreur de la nuit. Ses pas inégaux et précipités ébranlèrent le seuil de leur chalet et les y retinrent jusqu'au jour, éveillés et tremblants. Enfin, il disparut et alla s'ensevelir dans un couvent de Chartreux. Mais bientôt, d'étranges révélations sortirent de cet asile et allèrent bouleverser les existences les plus sereines et les plus brillantes. Hannibal succomba sans être appelé à aucune explication. Plusieurs évêques qu'il avait secondés dans ses vues généreuses, grand nombre de prêtres, les plus distingués du clergé par leur lumière et la noblesse de leur conduite, furent disgraciés ou interdits. Quant à Lélia, on pensa que de tels châtiments seraient trop doux pour l'expiation de ses crimes et qu'il fallait lui infliger l'humiliation et la honte. L'Inquisition en instruisit son procès. Le prélat puissant qu'il avait soutenu dans sa carrière était abattu. Les animosités profondes, résultat de cette nouvelle direction donnée par eux et par leurs adhérents aux idées religieuses, et qui avaient grondé sourdement sous leurs pieds, éclatèrent tout à coup et prirent leur revanche. On versa le venin de la calomnie sur la tombe à peine fermée du cardinal. Libation impure, offerte aux passions infernales. On rechercha les actions secrètes de sa vie, et au lieu de blâmer celles qui auraient pu être répréhensibles, on les passa sous silence pour ne s'occuper que des dernières années de sa vie, années qui, sous l'influence de Lélia, étaient devenues aussi pures que l'âme de Lélia le souhaitait pour sympathiser entièrement avec celle du prélat. On prit plaisir à répandre la fange du scandale et de l'imposture sur cette amitié sacrée qui eût pu produire de si grandes choses dans l'intérêt de l'Église, si l'Église, comme toutes les puissances qui finissent, n'eût pris à tâche de se précipiter elle-même dans l'abîme où elle dort aujourd'hui sans espoir de réveil. L'abbesse des Camaldules fut donc accusée d'avoir été l'épouse adultère du Christ et d'avoir entraîné dans les voies de perdition un prince de l'Église qui, avant sa liaison funeste avec elle, avait été, disait-on, une des colonnes de la foi. En outre, elle fut accusée d'avoir professé des doctrines étranges, nouvelles, pleines de passions mondaines et toutes imprégnées d'hérésie. Puis, d'avoir entretenu des relations criminelles avec un impie qui s'introduisait la nuit dans sa cellule. Enfin, d'avoir mis le comble au délire de l'apostasie et à l'audace du sacrilège en faisant inhumer le cadavre de cet impie dans la terre consacrée aux sépultures des Camaldules. Infraction aux lois de l'Église qui refuse la sépulture en terre sainte aux athées décédés de mort volontaire. Infraction aux règles monastiques qui n'admettent pas la sépulture des hommes dans l'enceinte réservée aux tombes des vierges. À ce dernier chef d'accusation, Lélia connut d'où partait le coup dont elle était frappée. Elle n'en douta plus lorsque, appelée à rendre compte de sa conduite devant ses sombres juges, elle se vit confrontée avec Magnus. Toutes ses turpitudes lui causèrent un tel dégoût qu'elle se refusa à toute interrogation et n'essaya pas de se justifier. Magnus était si tremblant devant elle qu'en face de juges intègres, le trouble de l'accusateur et le calme de l'accusé eussent suffi pour éclairer les consciences. Mais la sentence était portée d'avance et les débats n'avaient lieu que pour la forme. Lélia sentit dans son cœur trop de mépris pour accuser Magnus à son tour. Elle se contenta de lui dire, en le voyant chanceler et s'appuyer sur les bras du familier du Saint-Office, « Rassure-toi, la terre ne s'entr'ouvrira pas sous tes pieds. Ton supplice sera dans ton cœur. Ne crains pas que je te rende blessure pour blessure, outrage pour outrage. Va, misérable, je te plains. Je sais à quelle lâche terreur tu obéis en me calomniant. Va te cacher à tous les yeux, toi qui espères gagner le ciel en commettant l'iniquité. Que Dieu t'éclaire et te pardonne, comme je te pardonne moi-même. » Lélia fut accusée aussi par deux de ses religieuses qu'il avait toujours haïes à cause de son amour pour la justice et qui espéraient prendre sa place. Elles l'accusèrent d'avoir eu des relations avec les Carbonari et d'avoir aidé, conjointement avec le cardinal, à l'évasion du féroce et impie Valmarina. Enfin, elles lui firent un crime d'avoir disposé, avec une prodigalité insensée, des richesses du couvent et d'avoir, dans une année de disette, fait vendre des vases d'or et des effets précieux dépendant du trésor de leur église pour soulager la misère des habitants de la contrée. Interrogée sur ce fait, Lélia répondit en souriant qu'elle se déclarait coupable. Elle fut condamnée à être dégradée de sa dignité en présence de toute sa communauté. On attira autant de monde qu'on put à ce spectacle, mais peu de personnes s'y rendirent, et celles que la curiosité y poussa s'en retournèrent émues profondément de la dignité calme avec laquelle l'abbesse soumise à ses affronts les reçut d'un air à faire pâlir ceux qui les lui infligeaient. Elle fut ensuite reléguée dans une chartreuse ruinée que la communauté des Camaldules possédait dans le nord des montagnes et dont elle faisait entretenir une partie pour servir d'asile pénitentiaire à ses délinquantes. C'était un lieu froid et humide, où de grands sapins, toujours baignés par les nuages, bornaient l'horizon de toutes parts. C'est là que, l'année suivante, Trainmore trouva Lélia mourante et l'engagea de tout son pouvoir à rompre son vœu et à fuir avec lui sous un autre ciel. Mais Lélia fut inébranlable dans sa résolution. « Que m'importe, quant à moi, lui dit-elle, de mourir ici ou ailleurs, et de vivre quelques semaines de plus ou de moins. N'ai-je pas assez souffert? Et le ciel ne m'a-t-il pas concédé enfin le droit d'entrer dans le repos? D'ailleurs, je dois rester ici pour confondre la haine de mes ennemis et pour donner un démenti à leurs prédictions. Ils ont espéré que je me soustrairais au martyre. Ils seront déçus de leur attente. Il n'est pas inutile que le monde aperçoive quelques différences entre eux et moi. Les idées auxquelles je me suis voué exigent de ma part une conduite exemplaire, pure de toute faiblesse, exempte de tout reproche. Croyez bien qu'au point où j'en suis, une telle force me coûte peu. » Trainmore la vit s'éteindre rapidement, toujours belle et toujours calme. Elle eut cependant, vers sa dernière heure, quelques instants de trouble et de désespoir. L'idée de voir l'ancien monde finir sans faire surgir un monde nouveau lui était amère et insupportable. « Eh quoi, disait-elle, tout ce qui est-il donc, comme moi, frappé à mort et destiné à périr sans laisser de descendance pour recueillir son héritage ? J'ai cru, pendant quelques années, qu'à la faveur d'un entier renoncement à toute satisfaction personnelle, j'arriverai à vivre par la charité et à me réjouir dans l'avenir de la race humaine. Mais comment puis-je aimer une race aveugle, stupide et méchante? Que puis-je espérer d'une génération sans conscience, sans foi, sans intelligence et sans cœur? » Trainmore s'efforçait en vain de lui faire comprendre qu'elle s'était abusée en cherchant l'avenir dans le passé. Il ne pouvait être là, disait-il, qu'un germe mystérieux dont l'éclosion serait longue, parce qu'il lui fallait pour s'ouvrir à la vie que le vieux tronc fût abattu et desséché. Tant qu'il y aura un catholicisme et une église catholique, lui disait-il, il n'y aura ni foi, ni culte, ni progrès chez les hommes. Il faut que cette ruine s'écroule et qu'on en balaye les débris pour que le sol puisse produire des fruits là où il n'y a maintenant que des pierres. Votre grande âme, celle d'Hannibal et de plusieurs autres, se sont rattachées au dernier lambeau de la foi, sans songer qu'il valait mieux arracher ce lambeau, puisqu'il ne servait qu'à voiler encore la vérité. une philosophie nouvelle, une foi plus pure et plus éclairée va se lever à l'horizon. Nous n'en saluons que l'aube incertaine et pâle, mais les lumières et les inspirations qui font la vie de l'humanité ne manqueront pas plus à l'avenir des générations que le soleil ne manque chaque matin à la terre endormie et plongée dans les ténèbres. L'âme ardente de Lélia ne pouvait s'ouvrir à ses espérances lointaines. Elle n'avait jamais su s'accommoder des promesses de l'avenir, à moins qu'elle ne sentît l'action qui doit produire ces choses agir sur elle ou émaner d'elle. Son cœur avait d'infinis besoins et il allait s'éteindre sans en avoir satisfait aucun. Il eût fallu à cette immense douleur l'immense consolation de la certitude. Elle eût pardonné au ciel de l'avoir frustré de tout bonheur si elle eût pu lire clairement dans les destins de l'humanité future quelque chose de mieux que ce qu'elle avait eu elle-même en partage. Une nuit, Trenmore la rencontra sur le sommet de la montagne. Il faisait un temps affreux. La pluie coulait par torrents, le vent mugissait dans la forêt et les arbres craquaient autour d'elle. De pâles éclairs sillonnaient les nuages. Trenmore l'avait laissée dans sa cellule, si épuisée et si faible, qu'il avait craint de ne pas la retrouver vivante le lendemain. En la rencontrant ainsi errante sur les rochers glissants et toute baignée de l'écume des torrents qui se formaient et grossissaient autour d'elle, Trenmore crut voir son spectre et il l'invoqua comme un pur esprit. Mais elle lui prit la main et, l'attirant vers elle, elle lui parla ainsi d'une voix forte et l'œil enflammé d'un feu sombre. 67. Délire. Il est des heures dans la nuit où je me sens accablé d'une épouvantable douleur. D'abord, c'est une tristesse vague, un malaise inexprimable. La nature tout entière pèse sur moi et je me traîne brisé, fléchissant sous le fardeau de la vie comme un nain qui serait forcé de porter un géant. Dans ces moments-là, j'ai besoin d'expansion, j'ai besoin de soulagement, et je voudrais embrasser l'univers dans une effusion filiale et fraternelle. Mais il semble que l'univers me repousse tout à coup et qu'il se tourne vers moi pour m'écraser, comme si moi, atome, j'insultais l'univers en l'appelant à moi. Alors l'élan poétique et tendre tourne en moi à l'effroi et au reproche. Je hais l'éternelle beauté des étoiles et la splendeur des choses qui nourrissent mes contemplations ordinaires ne me paraît plus que l'implacable indifférence de la puissance pour la faiblesse. Je suis en désaccord avec tout et mon âme crie au sein de la création comme une corde qui se brise au milieu des mélodies triomphantes d'un instrument sacré. Si le ciel est calme, il me semble revêtir un Dieu inflexible, étranger à mes désirs et à mes besoins. Si l'orage bouleverse les éléments, je vois en eux, comme en moi, la souffrance inutile, les cris inexaucés. Oh oui, oui, hélas, le désespoir règne et la souffrance et la plainte émanent de tous les pores de la création. Cette vague se tord sur la grève en gémissant, ce vent pleure lamentablement dans la forêt. Tous ces arbres qui se plient et qui se relèvent pour retomber encore sous le fouet de la tempête subissent une torture effroyable. Il y a un être malheureux, maudit, un être immense, terrible et tel que ce monde où nous vivons ne peut le contenir. Cet être invisible aide en tout et sa voix remplit l'espace d'un éternel sanglot. Prisonnier dans l'immensité, il s'agite, il se débat, il frappe sa tête et ses épaules aux confins du ciel et de la terre. Il ne peut les franchir. Tout le serre, tout l'écrase, tout le maudit, tout le brise, tout le hait. Quel est-il et d'où vient-il? Est-ce l'ange rebelle qui fut chassé de l'Empyrée et ce monde est-il l'enfer qui lui sert de cachot? Est-ce toi, force que nous sentons et que nous voyons? Est-ce vous, colère et désespoir, qui vous révélez à nos sens et que nos sens reçoivent de vous? Est-ce toi, rage éternelle qui bruit sur nos têtes et roule dans nos cieux? Est-ce toi, esprit inconnu mais sensible, qui est le maître ou le ministre, ou l'esclave, ou le tyran, ou le geôlier, ou le martyr? Combien de fois j'ai senti ton vol ardent sur ma tête? Combien de fois ta voix est venue arracher mes larmes sympathiques du fond de mes entrailles et les faire couler comme le torrent des montagnes ou la pluie du ciel? Quand tu es en moi, j'entends ta voix qui me crie « Tu souffres, tu souffres !» Et moi, je voudrais t'embrasser et pleurer sur ton sein puissant. Il me semble que ma douleur est infinie comme la tienne et qu'il te faut ma souffrance pour compléter ta plainte éloquente. Et moi aussi, je m'écris, « tu souffres, mais tu passes, tu fuis, tu t'apaises ou tu t'endors. Un rayon de la lune dissipe tes nuages. La moindre étoile qui brille derrière ton linceul semble rire de ta misère et te réduire au silence. Il me semble parfois voir ton spectre tomber dans une rafale, comme un aigle immense dont les ailes couvriraient toute la mer et dont le dernier cri s'éteindrait au sein des flots. Et je vois que tu es vaincu, vaincu comme moi, faible comme moi, terrassé comme moi. Le ciel s'éclaire et s'illumine des feux de la joie, et une sorte de terreur stupide s'empare de moi aussi. Prométhée, Prométhée, est-ce toi, toi qui voulais affranchir l'homme des liens de la fatalité? Est-ce toi qui, brisé par un dieu jaloux et dévoré par ta bile incurable, retombe épuisé sur ton rocher sans avoir pu délivrer ni l'homme, ni toi, son seul ami, son père, son vrai dieu peut-être? Les hommes t'ont donné mille noms symboliques, audace, désespoir, délire, rébellion, malédiction. Ceux-ci t'ont appelé Satan, cela crime. Moi, je t'appelle désir. Moi, Sibylle, Sibylle désolée. Moi, esprit des temps anciens, enfermé dans un cerveau rebelle à l'inspiration divine, lyre brisée, instrument muet dont les vivants d'aujourd'hui ne comprendraient plus les sons, mais au sein duquel murmure comprimée l'harmonie éternelle. Moi, prêtresse de la mort, qui sens bien avoir été déjà pitié, avoir déjà pleuré, déjà parlé, mais qui ne me souvient pas, qui ne sait pas, hélas, ce qu'il faudrait dire pour guérir. Oui, oui, je me souviens des antres de la vérité et des délires de la révélation, mais le mot de la destinée humaine, je l'ai oublié, mais le talisman de la délivrance, je l'ai perdu. Et pourtant, j'ai vu beaucoup de choses, et quand la souffrance me presse, quand l'indignation me dévore, quand je sens Prométhée s'agiter dans mon sein et battre de ses grandes ailes la pierre où il est scellé, quand l'enfer gronde sous moi comme un volcan prêt à m'engloutir, quand les esprits de la mer viennent pleurer à mes pieds et ceux de l'air frémir sur mon front, oh alors, en proie à un délire sans nom, à un désespoir sans borne, j'appelle le maître et l'ami inconnu qui pourrait éclairer mon esprit et délier ma langue. Mais je flotte dans les ténèbres et mes bras fatigués n'embrassent que des ombres trompeuses. Oh, vérité, vérité, pour te trouver, je suis descendu dans des abîmes dont la seule vue donnait le vertige de la peur aux hommes les plus braves. J'ai suivi Dante et Virgile dans les sept cercles du rêve magique. J'ai suivi Curtius dans le gouffre qui s'est refermé sur lui. J'ai suivi Régulus dans son hideux supplice. J'ai laissé partout ma chair et mon sang. J'ai suivi Madeleine au pied de la croix. Et mon front a été inondé du sang du Christ et des larmes de Marie. J'ai tout cherché, tout souffert, tout cru, tout accepté. Je me suis agenouillé devant tous les gibets, consumé sur tous les bûchers, prosterné devant tous les autels. J'ai demandé à l'amour ses joies, à la foi ses mystères, à la douleur ses mérites. Je me suis offerte à Dieu sous toutes les formes. J'ai sondé mon propre cœur avec férocité. Je l'ai arraché de ma poitrine pour l'examiner. Je l'ai déchiré en mille pièces. Je l'ai traversé de mille poignards pour le connaître. J'en ai offert les lambeaux à tous les dieux supérieurs et inférieurs. J'ai évoqué tous les spectres. J'ai lutté avec tous les démons. J'ai supplié tous les saints et tous les anges. J'ai sacrifié à toutes les passions. Vérité, vérité, tu ne t'es pas révélé. Depuis 10 000 ans, je te cherche et je ne t'ai pas trouvé. Et depuis 10 000 ans, pour toute réponse à mes cris, pour tout soulagement à mon agonie, j'entends planer sur cette terre maudite le sanglot désespéré du désir impuissant. Depuis 10 000 ans, je t'ai senti dans mon cœur sans pouvoir te traduire à mon intelligence, sans pouvoir trouver la formule terrible qui te révélerait au monde et qui te ferait régner sur la terre et dans les cieux. Depuis 10 000 ans, j'ai crié dans l'infini « Vérité, vérité !» Depuis 10 000 ans, l'infini me répond « Désir, désir !» Ô Sibylle désolée, ô muette pitié, brise donc ta tête au rocher de ton antre et mêle ton sang fumant de rage à l'écume de la mer, car tu crois avoir possédé le Verbe tout-puissant et depuis 10 000 ans, tu le cherches en vain. » Comme elle parlait encore, Trainemore sentit la main brûlante de Lélia se glacer tout à coup dans la sienne. Puis, elle se leva comme si elle allait se précipiter. Trainemore épouvantée la retint dans ses bras. Elle retomba raide sur le rocher. Elle avait cessé de vivre. Lélia avait toujours vécu sous un beau ciel. Elle haïssait les contrées que le soleil n'éclaire pas largement. Le froid l'avait tuée avec promptitude, comme s'il eût voulu seconder les desseins de ses ennemis. La coterie qu'il avait perdue était déjà tombée. Une autre coterie remplaça celle-là et voulut humilier sa rivale en réhabilitant la mémoire de ceux qu'elle avait abattus. On fit des obsèques magnifiques au cardinal et on rapporta au monastère des Camaldules les cendres de l'abbesse qu'on honora comme une sainte et comme une martyre. Lélia fut ensevelie dans le cimetière et on permit à Trainemore d'élever une tombe à Stenio sur la rive opposée, près de la cellule délaissée de l'ermite, là où on avait fait transporter les restes du poète après les avoir expulsés du monastère. Un soir, Trainemore étant guéri des suites de sa chute et ayant terminé les funérailles de ses deux amis, descendit lentement sur les rives du lac. La lune, en se levant, jetait un rayon oblique sur ces deux tombes blanches que le lac séparait. Des météores s'élevèrent comme de coutume sur la surface brumeuse de l'eau. Trainemore contempla tristement leur pâle éclat et leur danse mélancolique. Il en remarqua deux qui, venus des deux rives opposées, se joignirent, se poursuivirent mutuellement et restèrent ensemble toute la nuit, soit qu'ils vinssent se jouer dans les roseaux, soit qu'ils se laissassent glisser sur les flots tranquilles, soit qu'ils se tinssent tremblant dans la brume comme deux lampes près de finir. Trainemore se laissa dominer par une idée superstitieuse et douce. Il passa la nuit entière à suivre de l'œil ces inséparables lumières qui se cherchaient et se suivaient comme deux âmes amoureuses. Deux ou trois fois, elles vinrent près de lui et il les nomma de deux noms chéris en versant des larmes comme un enfant. Quand le jour parut, tous les météores s'éteignirent. Les deux flammes mystérieuses se tinrent quelque temps sur le milieu du lac comme si elles eussent eu de la peine à se séparer. Puis elles furent chassées toutes deux en sens contraire, comme si elles allaient rejoindre chacune la tombe qu'elle habitait. Quand elles se furent effacées, Trainmore passa sa main sur son front comme pour en chasser le rêve affaiblissant d'une nuit de douleur et de tendresse. Il remonta vers la tombe de Stenio et, un instant, il s'arrêta, incertain. « Que ferais-je sans vous dans la vie ? » s'écria-t-il. « À quoi serais-je utile ? À qui m'intéresserais-je ? À quoi me serviront ma sagesse et ma force si je n'ai plus d'amis à consoler et à soutenir ? Ne vaudrait-il pas mieux avoir une tombe au bord de cette eau si belle, auprès de ces deux tombes silencieuses ? Mais non, l'expiation n'est pas finie. Magnus vit peut-être encore. Peut-être puis-je le guérir. D'ailleurs, il y a partout des hommes qui luttent et qui souffrent. Il y a partout des devoirs à remplir, une force à employer, une destinée à réaliser. » Il salua de loin le marbre qui renfermait Lélia. Il baisa celui où dormait Stenio. Puis il regarda le soleil, ce flambeau qui devait éclairer ses journées de travail, ce phare éternel qui lui montrait la terre d'exil, où il faut agir et marcher, l'immensité des cieux toujours accessible à l'espoir de l'homme. Il ramassa son bâton blanc et se remit en route. Ici se termine l'Elia.